Monsieur Béliot est ergothérapeute, thérapeute familial, docteur en sciences cognitives et responsable pédagogique de l'Institut de formation en ergothérapie du CHU de Bordeaux. Les problématiques liées à la cérébrolésion lui sont évidemment bien connues. Acteur également de la consultation handicap et famille au CHU de Bordeaux, Christian Béliot a beaucoup travaillé sur le modèle de la CIF et les questions de limitation d'activité et de restriction de participation. Alors quand je lui ai demandé le titre de sa communication pour cette journée, il y a déjà plusieurs mois, il m'a dit « pas de problème, cérébrolésion et participation sociale, faut-il vraiment participer ?» C'est ce que vous avez dans le programme. Ce titre nous a un petit peu interpellés, je ne vous le cache pas. Alors, je ne sais pas, quand on est cérébrolésé, faut-il vraiment participer, Christian ?
Bon, écoutez, merci de ce mot d'introduction. Merci aux orateurs précédents et à Mme Bodine, vous avez dit l'essentiel de ce qui pourrait être dit dans cette journée. Donc c'est relativement confortable pour moi de poser une question qui pourrait être juste un tout petit peu confrontante. Mon propos n'est pas de faire une démonstration académique, cathédratique, pour vous dire « oui, il faut faire ci, oui, il faut faire ça, il faut participer ou il ne faut pas participer ». Non, je ne me permettrai pas de faire ça. Simplement, dans ma présentation, je vais aborder un certain nombre de points. Certains pourraient être provocateurs, parce qu'il faut être un peu provocateur aussi, et bousculer, et Mme Bodine nous a encouragé à bousculer nos administrations, qui possiblement vivent les mêmes difficultés que tout le monde et que tout citoyen par rapport à la participation. Alors effectivement, j'ai dit oui à Dominique Sprumont. Bon, je me suis demandé si c'était vraiment bien ça qu'il fallait faire. Et je me suis dit, c'est compliqué la participation. Il faut vraiment, pour le définir, rentrer très profond. Et au fond, j'étais au bord de l'eau, et cette image montre que j'ai pu prendre quelques photos, même si ce sont des photos qui viennent d'Internet, bien évidemment. Pouvoir associer l'idée de la participation aux vagues. Et au fond, quand on voit une vague, et elles peuvent avoir différentes formes, ça c'est joli, c'est des photos d'Internet, c'est super. Vous avez déjà vu des photos comme ça? Non, probablement jamais. Eh bien, on peut être à l'extérieur et on peut aussi être à l'intérieur. Et je me suis dit, peut-être que la participation, c'est voir quelque chose et de l'extérieur, et aussi de le voir de l'intérieur. Et comme je suis ergothérapeute, eh bien, je suis au plus près des personnes qui vivent la participation ou son défaut, la restriction de participation de l'intérieur. Comme je suis très modeste, évidemment, je ne vous dirai pas qui est sous l'eau actuellement dans le petit rond bleu qui est là, parce que c'est pas moi qui ai pris la photo, bien évidemment. Mais pour l'idée de la participation, c'est de pouvoir véritablement être à l'intérieur. Et Mme Bodine a pratiquement cité une pensée de Soren Kierkegaard qui nous disait qu'il fallait, quand on se mettait en projet d'aider quelqu'un, aller là où il se trouve et partir de là où il est. C'est là l'art et le secret d'aider les gens. Alors il faut être dans le bain, véritablement. Et pour ceux qui ne sont pas dans le bain, il faut se rapprocher d'eux pour leur demander de regarder et de nous soutenir dans ce que nous faisons. Alors les vagues, c'est très compliqué. Je me suis dit, mais les vagues, la participation, c'est aussi forcément pour beaucoup d'entre nous, et vous l'avez dit madame, c'est la question du travail et de l'emploi. Oui, une forme de travail et d'emploi qui est en train d'évoluer dans nos pays occidentaux, dans nos pays industrialisés, dans nos pays riches. Nous avons une vision du travail qui est partiale et tronquée. Je vais essayer de pointer juste ces petites différences. Alors l'idée du travail, c'est comme l'idée des vagues. On se dit toujours, au moment où la vague arrive et quand on est dans l'eau avec sa planche, est-ce que je vais prendre celle-ci? Est-ce que c'est la bonne vague? Est-ce que celle-ci, elle va m'amener jusqu'à la plage? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Et parfois, eh bien, vous l'avez vu dans la photo précédente, on la loupe un peu et on se retrouve sous l'eau. Il y a différentes tailles de vagues, différentes complexités. Là, c'est un petit peu plus facile, rassurez-vous. C'est même pas cela que j'arrive à surfer. Par contre, celle-là, oui, quand on a attendu toute la journée, on se dit, si je ne vais pas surfer, c'est pas très grave, parce que je vais quand même voir un magnifique coucher de soleil. Ça, c'est la région de Lacanau, c'est près de Bordeaux, et je viens de Bordeaux. Donc la participation, c'est être sur la vague, c'est surfer. C'est aussi se planter un peu et être sous l'eau, mais c'est aussi regarder les vagues ou regarder le coucher de soleil. Et donc, il n'y a pas forcément une activité productive ou rémunérée quand on se livre à des activités qui peuvent être, par exemple, des activités de loisirs. Alors, la participation, oui. Eh bien, j'ai fait appel à Marcel Gottlieb, qui est maintenant décédé, qui nous proposait Super Dupont. Et Super Dupont qui plagie un peu les Américains, n'est-ce pas, avec We Want You, We Need You. Eh bien, là, oui, on a besoin de vous. La participation, c'est pour tout le monde. Oui, tout le monde participe. Peu ou prou, tout le monde participe. Alors, je suis ergothérapeute, je suis soignant essentiellement. J'ai fait ma carrière auprès de personnes cérébro-lésées. Et donc, je ne pouvais pas ne pas m'appuyer sur la CIF, même si Thierry, tout à l'heure, tu l'as un tout petit peu abordé. C'est un modèle. La CIF est un modèle parmi d'autres. Ce n'est pas le premier et ce n'est probablement pas le dernier. Celui-ci nous est particulièrement utile parce que pour la première fois, à un niveau planétaire, on propose quelque chose qui permet de comprendre la participation. La participation, en fait, c'est tout simple. C'est juste la continuation de capacités que nous pouvons avoir qui, avec l'environnement aidant ou pas aidant, peuvent s'actualiser. Donc, d'une part, il y a les activités humaines, j'en ai défini quelques-unes, et le travail n'est qu'une forme d'activité humaine. Les loisirs et regarder une vague sont une forme d'activité humaine. Et c'est ce que l'on peut faire, ce sont les activités. On a la capacité plus ou moins importante. Et donc dans la CIF, on parlera d'activité et de limitation d'activité. Et la participation, c'est ce que l'on fait vraiment. Et ce que l'on fait vraiment, c'est aussi lié aux capacités environnementales et aux ressources environnementales. Hier, effectivement, comme le disait Dominique, j'ai pu travailler avec l'équipe du ressort. Et une question est revenue très très rapidement sur un outil pour lequel nous avons essayé de réfléchir ensemble, d'évaluation de la restriction de participation. Cet outil faisait partie d'un petit travail de thèse que j'avais réalisé il y a quelques années. Et la difficulté, c'était de penser pour tous les soignants la rubrique système et politique. Donc madame, c'est bien que vous soyez là, parce que les soignants ont de la difficulté à penser l'organisation système et politique. C'est-à-dire comment, au niveau d'une société, on organise des politiques publiques à l'intention d'une population particulière. Il y a donc besoin de faire le lien très clair et très fort entre les soignants, ceux qui connaissent véritablement les besoins des personnes, et les administrateurs, les organisateurs de ces politiques qui ont besoin de ce décodage en permanence. Alors la CIF peut nous offrir une porte d'entrée intéressante pour ce décodage. Mais la CIF n'est qu'une classification, c'est-à-dire une représentation de la réalité. Et je me suis permis de revenir sur un de mes auteurs favoris que j'ai découvert au cours de ma thèse. Donc c'est pas tout nouveau, ça date de 1930 et quelques, qui avait un titre qui m'avait beaucoup plu à l'époque, « Une carte n'est pas le territoire ». Et sur la participation, les représentations que nous avons de la participation sont une carte. Mais la manière de le vivre, c'est le véritable territoire. Et donc nous sommes toujours à l'extérieur de ce que vivent véritablement les personnes cérébro-lésées. Nous n'en avons que des représentations. Donc il est particulièrement crucial de se rapprocher le plus possible d'elles pour comprendre ce qu'elles vivent et non pas appliquer de l'extérieur une cartographie qui nous permettrait de dire en permanence « voilà ce qu'il faut faire ». Le territoire, c'est la réalité telle que nous la vivons. Et nous la vivons différemment parce que nous avons tous une représentation différente de ce que nous souhaitons faire dans notre vie. Alors, faut-il vraiment participer ? Le faut-il vraiment ? Eh bien, tout dépend de la définition qu'on va utiliser. Et si nous devions tous participer, qu'est-ce que cela pourrait changer ? Pour ceux qui ont des lésions cérébrales tellement importantes qu'on se demande même s'ils sont présents. Participation, oui, mais pour faire quoi ? Participer, c'est un bien grand mot, c'est la carte, mais pour faire quoi ? C'est le territoire. Et donc, il faut aller au plus près des besoins pour construire des services qui répondent aux besoins des personnes. Alors, vous avez fait appel, madame, je reviens encore sur vous, c'est pratique pour moi que vous ayez fait cette introduction. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs types d'activités. Donc, l'activité productive, c'est comme ça que parlent les ergothérapeutes quand on parle des activités. Activité productive, un travail rémunéré versus un travail non rémunéré. Vous avez parlé de bénévolat, vous avez parlé d'engagement. Mais ce sont aussi toutes les activités de la vie quotidienne. Ce n'est pas forcément rémunéré, mais ce sont des activités qui sont essentielles. Il n'y a qu'à demander aux femmes qui, après, présentes dans cette assemblée, qui, après leur journée de travail, redémarrent à la maison une deuxième journée au travail pour s'occuper des enfants et de la tenue de la maison. Quand elles sont seules, c'est évident. Quand elles sont en couple, il peut y avoir un partage des tâches. Et là, tout le monde peut se demander si le partage des tâches à la maison, après la journée de travail, le travail rémunéré, est véritablement équitable. Mesdames, messieurs, je vous laisse réfléchir à cette question. Les activités de loisirs, ben oui, une fois qu'on a fini de tout ranger, eh bien, on s'occupe, on s'intéresse. Et les activités de loisirs, parfois, c'est la seule chose qui peut rester. Et les patients traumatisés crâniens, dans mon vocabulaire, je les appelle des patients, mais dans d'autres vocabulaires, on parle de bénéficiaires, d'usagers, etc., etc. Eh bien, les activités de loisirs, parfois, c'est la seule chose qui reste. Et parfois, les personnes vivent les activités de loisirs comme un manque, c'est-à-dire comme un pis-aller, c'est-à-dire ne trouvent pas d'intérêt. Et puis, j'ai rajouté ce que l'OMS a mis dans les catégories des relations interpersonnelles, l'idée de la relation. Nous sommes des êtres de relation, que nous soyons au travail ou pas, nous avons besoin tous les uns des autres. Donc la participation, ça serait, oui, tout le monde participe dès lors qu'on est en interaction et qu'on est en communication les uns avec les autres. Pour les professionnels, une question se pose. Les professionnels travaillent ont une activité rémunérée. Alors on voudrait faire travailler des personnes qui sont privées de travail. Donc si on veut faire travailler des personnes qui sont privées de travail du fait d'une lésion cérébrale, la question se pose, quel type de travail ? Est-ce que je peux partager mon travail avec ces personnes ? Madame, combien de personnes en situation de handicap avez-vous dans votre ministère, dans votre administration ? Je ne vous demande pas de répondre, bien évidemment, mais je suis français et je sais bien la difficulté qu'il y a dans nos administrations, dans notre système et politique, à accepter et à intégrer des personnes en situation de handicap. Il y a quelques mois, j'ai fait une journée de conférence-formation dans un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie. Et la question qui était très forte pour eux, c'était de pouvoir intégrer des personnes en situation de handicap. Oui, mais on parle de handicap psychique, on parle de soins dans le secteur de la psychiatrie. Et l'administration de l'hôpital souhaitait répondre aux injonctions des politiques de santé, à savoir intégrer au moins 6% de personnes handicapées sur la masse des salariés de l'hôpital. Et intégrer des personnes handicapées, c'est trouver des petits boulots. Des petits boulots, pas forcément avec un grand intérêt. Donc ils ont fait l'évaluation de tous leurs postes de travail, puis ils se sont dit, mais au fond, il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent être aussi des soignants. Et là, ça a été une grande levée de boucliers. Donc il y a ceux qui sont soignants et pas handicapés, et les handicapés ne peuvent pas être soignants. Et la journée de colloque que nous avons fait et avait comme objectif de mettre en commun ces personnes pour qu'elles puissent découvrir quelles étaient véritablement les capacités que l'on peut interroger pour les personnes en situation de handicap, mais que l'on peut interroger aussi pour les soignants. Et ça, c'est évidemment un petit peu plus difficile. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille et qu'est-ce qui se passe quand on travaille ? Imaginons que nous puissions aller travailler et n'être en contact avec strictement personne dans toute la journée. Je laisse quelques secondes. Imaginez, vous allez dans votre boulot, le matin vous ne dites pas bonjour, le soir vous ne dites pas au revoir, vous ne parlez à personne dans la journée. Non, on passe énormément de temps à parler entre nous, à parler de notre travail, de l'intérêt ou des difficultés au travail. C'est la règle des 50-50. On passe énormément de temps dans l'interaction. Et souvent, quand on pense le travail pour les personnes en situation de handicap, on oublie cet élément essentiel qui est la capacité à être en interaction, la capacité de communication, la capacité de relation. Alors, le travail est-il la seule ressource ? Eh bien, oui, une part, le travail donne des ressources. Et je ne rentrerai pas sur la différence qu'il y a de salaire entre un footballeur et un président d'une grande société, les parachutes dorés, etc., etc. Et il y a une organisation qui fait le salaire, qui fait la somme d'argent que chacun peut avoir à la fin du mois, qui est très différente et qui ne dépend pas forcément des capacités, mais d'une organisation qui prévoit que certains auront plus d'argent que d'autres. Nous sommes une société qui n'est pas une société égalitaire et nous avons maintenant une chaire qui est en train de se construire pour comprendre comment les inégalités se sont construites et comment elles existent. Donc pour qu'il y ait de la participation, il faut aussi pouvoir interroger l'inégalité. Deuxième point, c'est la solidarité sociale et la collectivité. Ben oui, quand il n'y a pas de travail, il faut compter sur la solidarité sociale et sur une organisation qui peut remplacer le manque de travail. Dans une société qui s'achemine vers le chômage de masse, cette question devient évidemment quotidienne et devient cruciale. Par la solidarité familiale, vous avez fait appel à l'idée de la solidarité familiale. Nous entendrons aujourd'hui des personnes qui viendront parler de la solidarité familiale. Quand il n'y a pas d'emploi rémunéré, quand il n'y a pas de solidarité de la collectivité, il reste la solidarité familiale. Et derrière la solidarité familiale, parfois, il y a des personnes cérébro-lésées qui n'ont plus de famille, qui n'ont pas le secours et le recours de la famille. Hier, j'ai travaillé avec l'équipe du ressort sur des situations dans lesquelles la famille n'était pas dans la solidarité, et bien au contraire, dans l'éviction d'un de ses membres, et devinez lequel, se retrouverait assez facilement à la rue. Le quatrième point, c'est le troc, c'est l'autosuffisance. Et là, on part dans l'idée de la décroissance. C'est aussi un mot qui est un petit peu à la mode, un petit peu tarte à la crème. Ben oui, notre système capitaliste n'est fondé que sur la croissance. Et le développement durable a forcément une fin. Et nous sommes probablement rentrés dans une crise et dans une évolution dans laquelle la décroissance et une autre forme de travail, une autre forme d'intégration et de participation est en train de naître. Bon, j'ai parlé de ça, j'essaye de respecter mon temps. J'avais prévu de parler 3 heures, mais je vais vous épargner ça. Enfin, il me regarde. Dominique avait suggéré que je puisse aussi présenter un tout petit peu quelques points de repère bibliographiques. Alors, je vous en présente un qui m'a accompagné dans mon travail de thèse, c'est le livre de Jean-Pierre Dupuis sur l'avenir de l'économie. Et si vous souhaitez aller plus loin sur les quelques idées que je viens d'avancer, il faut absolument lire ce livre. Et il parle de l'éco-mystification. L'éco-mystification, c'est-à-dire que nous sommes gouvernés par une idée de l'économie qui est une production humaine. Globalement, si nous sommes dans une crise économique, nous avons fabriqué une crise économique. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Donc s'il y a une crise, nous en sommes les responsables. Pour sortir de la crise ou pour vivre autrement, nous avons notre part de responsabilité. C'est une forme d'aborder aussi la participation. Je pourrais rentrer dans le détail, mais là aussi, je viens d'aborder les points les plus marquants de cette idée de la transcendance de Jean-Pierre Dupuis. Et c'est l'idée que nous créons notre réalité. Non, la crise économique n'est pas une fatalité. Non, nous pouvons vivre autrement. Nous pourrions vivre autrement que sous le joug de l'économie. J'habite en France et j'écoute la radio régulièrement le matin. Et il y a une émission qui dure de 7h à 9h. Le temps où je peux l'écouter, je n'entends parler que d'économie et de problématiques politiques. Les invités essentiels de ces émissions de radio, pour ne pas en nommer France Culture ou France Inter, c'est essentiellement des hommes politiques qui viennent parler de l'économie et des économistes qui viennent parler de l'économie. Donc, comme si l'idée de l'économie et l'idée de la participation sociale était dévolue seulement à des experts. Eh bien, je pense que non. Il y a d'autres formes de solidarité, d'autres formes de réflexion qui sont à l'œuvre et qui sont en train de se développer. L'économie n'existe pas en soi, c'est une production humaine, comme je le disais tout à l'heure. Et quand, si on fait le lien entre l'économie qui est malade et la maladie, eh bien, la maladie, c'est la médecine qui s'en occupe, et l'économie, quand elle est malade, c'est pas les médecins qui s'en occupent. C'est des gens qui sont à l'origine, les économistes, qui sont à l'origine des crises et de la maladie dans laquelle nous sommes. Donc, auto-producteurs, la crise économique et ceux qui l'ont créée. On peut réfléchir. Et l'idée de la transcendance dont parle Jean-Pierre Dupuis, on peut aussi la comprendre très très facilement sur l'idée que nous produisons des idées qui nous guident en permanence. Et une autre référence bibliographique, c'est celle de Philippe Caillé, qui a beaucoup, qui est thérapeute familial, qui est psychiatre, psychanalyste, thérapeute familial systémique, etc., et qui a beaucoup travaillé sur le couple et qui a donné l'idée que le couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Monsieur, madame, ou monsieur et monsieur, ou madame et madame, peu importe, deux personnes, et la représentation qu'ils se font de ce qu'il convient de faire pour que le couple existe. Et c'est le 3 qui est le plus important. Le 3, c'est la représentation que nous avons du fonctionnement du couple. Eh bien, je pense que pour l'économie, c'est pareil. Simplement, l'économie, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, se représenter le 3 que pourrait être l'économie, moi, j'écoute la radio tous les matins et je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. Alors, on peut revenir à des choses très basiques ou très triviales. Et sur l'idée de la solidarité, je m'appuierai sur voilà, un exemple qui est tiré de l'éthologie. Et Boris Cyrulnik, qui est aussi un de mes maîtres à penser, utilise très souvent ses compétences et ses connaissances en éthologie pour décrire la société humaine. Alors, la transcendance chez les bonobos, les singes, mesdames et messieurs, quelque part, nous sommes tous des singes, eh bien, on la comprend très facilement. Le singe, et les bonobos en particulier, ont une méthode d'action pour prévenir leurs congénères quand un danger existe pour le groupe. Les singes ont besoin d'aller au sol pour aller fouiller et chercher leur nourriture. Tous n'y vont pas. Ils envoient un ou deux individus. Et le prédateur essentiel du singe, c'est un serpent. Et quand le singe se trouve face à un serpent, il n'a pas d'autre recours que de fuir. Il ne peut pas l'affronter. Mais c'est très important, quand il a trouvé le danger, d'avertir ses congénères. Donc il s'éloigne du danger immédiat et il a un glapissement, il a un cri particulier qui est un signal de danger qui signale exactement quel est le type de danger et où il se trouve et dans quelle direction il va. Et il ne restera là. Il restera là près du serpent, à distance respectueuse, tant que les autres congénères n'auront pas répondu par un autre cri, qu'ils ont entendu le message et qu'ils se tiendront prêts. Donc un individu porte l'alerte pour le groupe et tout le groupe est informé du danger qui pourrait menacer tous les individus. Eh bien ça, c'est une forme de solidarité et c'est aussi une forme de participation. Les autres singes, que sont des sapajous, des capucins, ont une forme très particulière aussi de se protéger des dangers. La première chose qu'ils font, c'est se regrouper. Ils ont l'idée, certainement s'ils le font, et ça doit être efficace, que quand ils sont en groupe, ils sont moins vulnérables. Mais beaucoup d'animaux font ça. Quand ils sont en groupe, l'individu est moins vulnérable. La probabilité statistique de ne pas être attaqué par un prédateur quand on est en groupe dépend de la taille du groupe. Donc les singes ont appris à se regrouper pour éviter le danger. Comment faisons-nous pour nous regrouper quand il y a des personnes en situation de difficulté dans la vie quotidienne, pour nous regrouper et les accompagner? Et sur l'image de droite, c'est une autre stratégie qui est de se regrouper pour menacer. Un singe qui menace, c'est menaçant. Deux singes qui menacent, c'est beaucoup plus important et ça peut être beaucoup plus effrayant. Donc c'est une stratégie qu'ils ont trouvée pour faire peur et effrayer un prédateur possible. Je passerai sur cette diapositive pour dire les groupes, quand ils sont capables de se regrouper, sont moins en danger. C'est aussi ça l'idée de la solidarité. Donc d'une part, on a les sardines dans le Pacifique qui sont capables, face à un prédateur, et les prédateurs peuvent être toutes sortes d'animaux bien plus gros qu'eux, les dauphins ou les requins, qui ont des stratégies particulières, et les dauphins en particulier, pour regrouper les sardines. Parce qu'un dauphin, ça peut pas attraper une sardine. Mais un dauphin, ça peut faire comme un berger et regrouper les sardines pour en faire un troupeau. Et là, une fois que les sardines sont regroupées, eh bien, il est beaucoup plus facile pour lui d'aller à l'intérieur. Ce qui donne ces dessins un peu particuliers, qui sont l'évitement que chaque individu fait en groupe pour s'éloigner du danger. Vous connaissez cet animal ? C'est un étourneau. C'est un tout petit animal. Il n'est pas plus grand que ça. Mais voilà ce qu'il est capable de faire. Si on peut comprendre ce que font les sardines quand elles sont attaquées par des dauphins, on n'a pas encore réussi à comprendre pourquoi les étourneaux, et vous les avez certainement vus, quand ils se regroupent, ils composent des vols qui tournent en permanence et qui composent des figures que nous pouvons interpréter. De l'extérieur, on peut interpréter ces figures. Ça ressemble un peu à quelque chose. Imaginons maintenant que nous soyons à l'intérieur. Quelle figure et quelle représentation peut avoir l'étourneau de ce qu'il est en train de faire avec le groupe ? C'est la différence entre la carte et le territoire dont je parlais tout à l'heure. J'avais prévu de parler du colibri, mais cette histoire, vous la connaissez déjà. Et je n'irai pas plus loin, éventuellement, Dominique, si tu as un petit moment, tu pourras en parler, puisque tu la connaissais. Non ? Vous connaissez l'histoire du colibri ? Pas du tout ? Elle est très rapide. C'est une fable qui vient d'Afrique, qui aurait été rapportée par ce monsieur qui est très centré sur l'écologie, dont j'oublie toujours le nom, qui s'appelle Rabbi. Pierre Rabhi, c'est ça. Et c'est grâce à lui que Dominique a entendu cette histoire. Eh bien, imaginons que les animaux de la forêt soient confrontés à un danger pour tous, qui est celui de l'incendie. Face à l'incendie, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a deux choses à faire. C'est fuir, c'est ce que font les animaux, ou éteindre le feu. Et l'histoire raconte que le colibri a une technique très particulière, qu'il est capable d'attraper une goutte d'eau avec son bec et d'aller porter cette goutte d'eau. Ça, c'est la fable. Il attrape la goutte d'eau, mais la fable, c'est qu'il serait capable de la porter sur l'incendie. Alors, il fait des allers-retours comme ça à toute vitesse à chaque fois avec une goutte d'eau. Et les autres animaux qui sont bien plus gros que lui lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est totalement inutile. » Et le colibri répond « Ben, je fais ma part. » L'idée de la participation, c'est que chacun puisse faire sa part et de ne pas la laisser seulement à des professionnels ou à des politiques qui peuvent être, je dis un système politique, qui peuvent être éloignés, qui peut être éloigné de la réalité quotidienne. Chacun sa part. Sinon, ça donne ça. Certains sont plus que d'autres, certains ont plus que d'autres. Et cette image qui vient d'Internet, c'est un processus de domination. C'est un SDF, ben ouais, il y en a plein. Il y a plein de SDF. Comment est-ce qu'on s'occupe des SDF ? Comment un SDF participe ? On voit bien qu'il y a une différence de niveau, et la photo, c'est pas moi qui l'ai prise, bien évidemment, mais on voit bien le type de regard, comment le photographe a su capter un regard hostile, un regard de dédain, un regard de rejet vis-à-vis de cette personne. Mais si on regarde le SDF, il est en train de sourire. Il vit une vie de SDF. Et il y en a un des deux qui est en train de se dire « Je veux surtout pas être comme lui. » Par rapport au chômage de masse dont je parlais tout à l'heure, la plus grande crainte des gens qui ont un travail, c'est de le perdre. Parce que notre organisation sociale, c'est un travail rémunéré, c'est un logement et c'est une sécurité. Pas de travail, pas de logement, égale pas de sécurité. Et il faut comprendre que dans notre pays, en France, plus de 1 SDF sur 4 a un travail rémunéré. Donc il y a bien une organisation sociale qui fait que malgré le salaire et malgré un travail rémunéré, on ne peut pas accéder à un logement. C'est un véritable travail. Les SDF, quand ils vont bosser le matin, ils vont à leur poste de travail. Et leur poste de travail, ce sont des endroits qu'ils connaissent, qu'ils s'échangent, dans lesquels il peut y avoir plus ou moins d'argent. Et il y a une hiérarchie à l'intérieur de ce groupe humain qui est que les meilleures places seront conservées, celles qui vont donner le plus d'argent, seront conservées par ceux qui sont les plus forts. Et les plus faibles iront dans des endroits dans lesquels il y a moins de ressources possibles. Je me suis permis, ne voyez là aucune provocation, Je me suis permis d'aller sur Internet quand je devais travailler sur la participation et je faisais le lien entre le traitement social que nous faisons du handicap, le traitement social que nous imposons aux personnes en situation de handicap, le traitement social ou pas que nous imposons aux personnes qui sont immigrées par exemple, les SDF. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est le musée des égouts d'Anderlecht. Certains d'entre vous le connaissent, je n'ai pas encore le plaisir de le connaître, mais c'est un endroit que l'on visite, c'est un musée. Et tel qu'il est fichu, eh bien, ça donne des repères, ça donne des endroits pour pouvoir se protéger un peu. Quand on n'a pas de toit, on peut aller dans des endroits publics et bénéficier d'une porte cochère pour être un tout petit peu à l'abri. Le problème, c'est que c'est un dérangement social. Et alors, l'administration de ce musée a trouvé intéressant de se comporter avec les SDF comme avec les pigeons. C'est-à-dire, il faut les éloigner. Qu'est-ce qu'on fait pour les éloigner ? Eh bien, on les douche régulièrement. On installe un système d'arrosage que vous voyez là-haut. Et à intervalles réguliers, eh bien, l'eau se déclenche. Il est impossible de rester plus de quelques minutes dans cet endroit. Objectif atteint. On fait avec les immigrés syriens ou autres de la même manière qu'on fait avec les pigeons. Voilà une autre diapositive, c'est juste un parking public. Voilà l'eau et à quoi elle peut servir. Mais la population ne se laisse pas faire non plus. C'est ça l'idée de la participation. Et ce que vous voyez, ça se passe à Namur. Et ce que vous voyez là, c'est simplement que le conseil municipal, enfin je ne sais pas si vous le dites comme ça, mais a été sensible au bruit qui venait de la population et au fait qu'il y avait une véritable politique d'éviction et d'éloignement des SDF. Mais la municipalité, donc les responsables administratifs ou politiques, ont accepté de réfléchir aux problèmes que la communauté pouvait avoir avec le défaut de logement. Donc cette photo, elle est issue évidemment d'Internet. Et il y a d'une part les gens qui sont privés de logement, les SDF, et d'autre part les administrateurs, et ils essaient de trouver des solutions. A priori, ce que disait l'article du journal, c'est que oui, des solutions avaient été pensées. Et toujours dans le même cadre, c'est l'idée de la transparence, de l'invisibilité sociale. Et cette diapositive, donc, c'est quelqu'un qui se défend, c'est quelqu'un qui se bat et qui dit « voilà comment on nous considère, nous sommes invisibles, nous sommes transparents, mais nous existons et nous vivons quand même ». Alors, il faut penser à la cérébro-lésion qu'on a souvent affublée du terme de « handicap invisible ». Un fauteuil roulant, ça se voit, mais un traumatisme crânien, ça ne se voit pas. Ça ne se perçoit pas de la même manière. Donc on parle de handicap invisible pour dire c'est handicap, mais on ne le voit pas. Et donc il faut aller près des personnes pour trouver en quoi c'est difficile pour eux et en quoi les lésions cérébrales ont des conséquences sur l'organisation de la vie quotidienne. Ça, je n'en parle pas. Vous voyez les pigeons. Eh bien, ça c'est en France, c'est en Angoulême. Nous avons exactement les mêmes réponses. Alors celle-ci est particulièrement amusante. Ce sont des bancs. Ce sont des bancs, mais ce sont des bancs qui étaient occupés en permanence par des SDF le soir, pour dormir, pour s'allonger, pour ne pas être sur le sol. Eh bien, la municipalité d'Angoulême, et je n'ai pas dit que c'était la ville d'Angoulême, non, je ne l'ai pas dit, a trouvé très intéressant d'interdire aux SDF, mais donc à tout le monde, le fait de pouvoir aller s'asseoir. Et c'est ça qu'il y a de miraculeux avec Internet. C'est que ce sont des... Alors, j'ai pas mis les photos, mais ce sont des adolescentes qui ont porté, vous savez comment on dit, le buzz. Elles se sont prises en photo, elles ont fait des selfies à l'intérieur et elles ont mis ces photos sur Internet. Donc, tout de suite, la population qui pouvait voir ça, mais qui n'avait pas forcément réagi, le fait de s'appuyer sur Internet a créé un climat un peu délétère qui a obligé la municipalité rapidement, parce que c'est la population qui l'a exigé, que l'on sorte ces barrières-là. Ça n'a pas réglé le problème, mais au moins l'idée de la participation, c'est que tout le monde peut aller s'asseoir sur des bancs qui, a priori, ont été faits pour. Vous savez ce que c'est ? Une autre manière de résoudre le problème des pigeons. Ben, y a des municipalités qui ont dit « éradiquer les pigeons, ça ne marche pas. Mettre des pics, ça défigure les monuments. Les chasser, on ne peut pas. Les empoisonnés, ça ne marche pas très longtemps. Parce que quand on a supprimé quelques pigeons par le poison, il y a d'autres pigeons qui viennent occuper la place laissée libre par ceux qui viennent de mourir. Et donc le problème, c'est toujours reporté. Alors ils ont réfléchi différemment, ils se sont dit, mais au fond, un pigeon, ça a besoin de quoi ? Ça a besoin de manger, ça a besoin de se regrouper, les pigeons sont souvent ensemble, et ça a besoin de se protéger. Alors ils ont construit des pigeonniers. Et donc les pigeonniers servent aux pigeons à s'abriter. Résultat, la solution est toute trouvée. Les pigeons vont manger dans le centre-ville, mais vont dormir à l'extérieur de la ville. Problème résolu. Donc la question de la participation et la question du logement, vous l'avez posée tout à l'heure, elle se pose pour les pigeons comme pour tout le monde. Alors la participation, c'est aussi quelques dérives. Oui, on parle beaucoup de participation. We need you, on a besoin de vous. Oui, il faut le faire. Tout le monde participe. Et j'ai trouvé quelques images de participation, je dirais, un peu dévoyées. Et là, on est dans la participation citoyenne. C'est-à-dire, on peut mettre à peu près tous les sens que l'on veut au terme de participation. Et là, la participation citoyenne, c'est pour conserver la liberté, la sécurité, et pour ça, il faut utiliser la délation. Donc, dès lors qu'un groupe est en danger, il suffit de prévenir la police. Et nous avons eu, en France, des campagnes pour privilégier la délation, c'est-à-dire la participation. Une autre forme de participation, et dans l'outil d'évaluation que nous avons créé, qui s'appelle GEMAP, on a aussi, avec l'équipe du ressort hier, parlé du vote. Ben oui, une personne en situation de handicap doit avoir une voix et manifester une intention. Encore faut-il comprendre comment fonctionne le système démocratique et le fait que nous élisions des personnes qui vont nous représenter et organiser la vie sociale, sur quoi, en fait ? Eh bien, pour les dernières élections présidentielles en France, quand on interroge le public, eh bien, Macron est très sympathique et très dynamique. Donc, c'est une perception de surface qui fait que les gens, la majorité des personnes, peuvent aller voter. Pas sur la réalité d'un programme. Et il est bien entendu, en France en tous les cas, que les promesses électorales ne sont que des promesses. Et pour être un peu cynique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Peut-être c'est en train de changer dans notre pays. Peut-être pas, je ne sais pas. L'histoire nous le dira. La participation, ce n'est pas l'idée que quelqu'un va organiser la participation. Non, la participation, c'est l'idée d'un collectif, c'est l'idée de la collaboration. Hier, j'ai abordé avec le groupe du ressort cette idée que la participation, c'est au départ une idée que peut avoir la personne, mais c'est aussi l'idée que peut avoir le professionnel pour proposer quelque chose. Si la personne qui est cérébralisée n'a pas la capacité de produire elle-même des idées sur en quoi je veux vivre, sur quoi je veux vivre, sur quoi je veux m'engager, eh bien peut-être c'est un boulot des professionnels de le proposer. Une idée, un projet, et en face, il faut que la personne ait des capacités. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver à évaluer les capacités véritables de la personne et de les évaluer en situation. Et les évaluer en situation, c'est l'idée de la participation. Je terminerai cette petite présentation avec d'autres références bibliographiques qui datent un peu, mais j'ai trouvé ça intéressant et je vais le lire avec vous. David Thoreau, libertaire, pensée un peu révolutionnaire, ou voilà, on va dire comme ça, un peu anarchiste mais en même temps un peu construit, mais en tous les cas très à la marge de son temps et qui a produit des choses intéressantes. Si un homme marche dans la forêt par amour pour elle pendant la moitié du jour, il risque fort d'être considéré comme un tir au flanc. Oui, il ne produit rien. Mais s'il passe la journée à spéculer, à raser cette forêt et à rendre la terre chauve avant l'heure, on le tiendra pour un citoyen industrieux et entreprenant, comme si la ville n'avait d'autre intérêt que ses forêts, pour ses forêts que de les abattre. Donc c'est l'idée de l'opposition de la forêt c'est beau ou la forêt c'est utile et ça peut rapporter de l'argent. Et tout est source d'argent dans notre organisation économique. Enfin, je terminerai par ce texte de Jean Lévy. Jean Lévy c'est un historien, on va dire un historien anthropologue qui s'est particulièrement centré sur l'évolution des idées et l'histoire des idées. Je vous le lis. Faciliter le travail, à quoi ça sert ? Faciliter la surveillance de la population en empêchant sa mobilité. Interdire la formation de puissances économiques qui pourraient s'ériger en rival de l'État. Trop tard, c'est fait. Et annihiler les facultés intellectuelles des hommes. Ce livre est paru en 1985, mais ce livre, c'est la traduction de textes chinois très anciens sur les dangers du discours, qui sont les stratégies du pouvoir du 4e et du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc je vous laisse réfléchir, savoir si depuis le 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ, nous avons terriblement évolué par rapport à la participation. Merci.
Merci Christian. Alors on a peut-être quelques minutes, pour poser l'une ou l'autre question. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des réflexions qui vous viennent sur ce qu'a dit Monsieur Béliot? Je crois que c'était quand même très interpellant pour, sur certains aspects. T'as pas plombé l'ambiance quand même.
Mais c'est le matin. Et voilà, il faut un petit peu de temps.
Thierry.
Merci pour ce bel exposé. Je voulais savoir comment réellement organiser justement cette rencontre. Cette rencontre entre les personnes, leurs souhaits, et de fait, je pense qu'on a un rôle, et je l'ai dit, pour faire émerger aussi... les rendre autonomes, il faut pouvoir faire émerger le possible, mais comment faire cette coordination, en tout cas cette réunion entre la personne cérébro-lésée, ceux qui s'occupent, qui sont très proches au niveau du terrain, et le politique. Je pense qu'il y a vraiment un problème, et je voudrais savoir si en France, comment on le fait, c'est comment s'organise cette collaboration, où se trouvent justement ces points de jonction entre les uns pour collaborer, pour mettre en place justement des politiques qui puissent répondre.
Écoute, pour répondre simplement, je dirais qu'il y a une politique qui fonctionne, et c'est la politique du colibri. Donc j'ai bien fait de raconter l'histoire, puisque nous avons parlé, vous avez parlé, madame, d'appartements communautaires, différentes formes d'habitat pour obtenir un toit, et le toit c'est la sécurité, et réorganiser sa vie à l'intérieur. Et si les personnes cérébro-lésées peuvent bénéficier de ce type d'aide, les SDF ont beaucoup de difficultés à passer de la rue à un logement. Ils sont totalement déstructurés. Être à la rue, c'est... la pathologie psychiatrique, le handicap psychique survient. C'est destructeur. Donc la seule possibilité pour les SDF, c'est un accompagnement petit à petit pour leur permettre de se retrouver, se ressourcer et peut-être effectivement avoir un toit. Bon, ça, on pourrait en parler plus longuement, mais nous n'aurions pas le temps. La politique du colibri, c'est la politique des petits pas. À un moment donné, il faut une idée. Il faut une idée et il faut des gens entrepreneurs pour réaliser cette idée et aller voir les politiques, aller voir les personnes qui sont en capacité de financer pour les convaincre. Il me semble que l'objectif de cette journée, c'est de permettre à toutes ces personnes d'échanger autour de ces idées. Les appartements communautaires, eh bien c'est un collègue à moi, un de mes anciens élèves. Ben ouais, j'ai l'âge d'avoir des anciens élèves à l'école d'ergothérapie de Bordeaux, qui a eu l'idée que, il y avait une difficulté majeure quand on était dans l'UEROS. Alors l'UEROS, c'est l'unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle. C'est un dispositif national en France qui a été pensé en 2004 par un homme politique qui était Monsieur Bauduré. Et des médecins sont allés le voir en disant « faut faire quelque chose pour les traumatisés crâniens là. Ça va pas du tout. Ils sont dans les centres de rééducation, puis quand ils sortent, il n'y a plus rien ». Donc les UEROS ont été créés, donc il a eu cette volonté-là, il les a écoutés, il a fait un tour de France dans les centres de rééducation pour voir ce qui se faisait véritablement. Il a dit, effectivement, c'est vrai, vous avez raison, il faut faire quelque chose pour les personnes qui ont une lésion cérébrale. On a construit les UEROS, des professionnels qui s'occupent de l'orientation sociale et professionnelle. Ouais, et il manquait le toit, il manquait les appartements, il manquait le logement. Et donc mon collègue ergothérapeute a eu l'idée de regrouper des personnes. Certaines avaient, vous dites, des subsides. Nous, on dit qu'ils ont une allocation adulte handicapé et des allocations pour le logement, des APL, Donc certains des personnes handicapées ont plus de ressources que d'autres et sont en capacité de payer un loyer. Mais d'autres n'ont strictement aucune ressource. Donc cela devrait aller à la rue. Donc il a eu l'idée de créer des appartements avec un minimum de personnel, plusieurs chambres, et les frais de structure sont partagés par la personne qui a des ressources. Ça permet de payer un professionnel. Cette idée, elle date de maintenant, ça doit faire 2004-2005, quelque chose comme ça. Et maintenant, on entend parler d'appartements supervisés, d'appartements communautaires et d'autres formes. Si c'est utile, quand il y a une utilité sociale, alors ça se répand comme un incendie. Il ne va pas très vite, l'incendie. Nous sommes en 2018, mais il avance. Donc la politique des petits pas et la politique du colibri, c'est celle qui est la plus efficace quand il y a une utilité sociale. Ça pourrait être ma réponse.
Merci. Une autre question ? Attends, Christian, on ne part pas tout de suite, il y a peut-être encore une question.
Bon. Je suis prisonnier, je reste là jusqu'à la fin de la journée. Donc on aura des moments de pause, de café et de repas et on pourra...
Tout de suite. S'il n'y a plus de questions,
d'ailleurs.
Il y a un petit moment de pause. Et on reprend à 10h30, 10h30, 10h35.